Comme chaque jeudi, c'est une personnalité du monde des arts et des idées qui vient nous parler d'économie. Notre invitée du jour est cinéaste et militante afro-féministe. À travers ses documentaires, elle s'attache à décoloniser nos imaginaires et à redonner de la visibilité aux femmes noires. Avec elle, nous allons parler de blaxploitation, des liens entre argent et création, et même de Dirty Dancing. Bonjour Amandine Gay.
Bonjour.
Un immense merci d'avoir accepté notre invitation. Et d'abord, on commence par une petite surprise.
Pourquoi les hommes boivent-ils du vin et les femmes de l'eau? Pourquoi un sexe est-il si prospère et l'autre si pauvre? Quel est l'effet de la pauvreté sur le roman? Quelles sont les conditions nécessaires à la création des œuvres d'art? Pourquoi aucune femme, quand un homme sur deux, semble-t-il, était capable de faire une chanson ou un sonnet, n'a écrit un mot de cette extraordinaire littérature, reste pour moi une énigme cruelle. Quelles étaient les conditions de vie des femmes, me demandais-je. Car la fiction, œuvre d'imagination s'il en est, n'est pas déposée sur le sol tel un caillou, comme le pourrait être la science. Le roman est semblable à une toile d'araignée, attachée très légèrement peut-être, mais enfin attachée à la vie par ses quatre coins. Souvent les liens sont à peine perceptibles. Les pièces de Shakespeare, par exemple, semblent être suspendues tout naturellement, sans aucune aide. Mais quand la toile est tirée sur le côté, arrachée sur ses bords, déchirée en son milieu, on se souvient que ces toiles ne sont pas tissées dans le vide par des créatures incorporelles, mais sont l'œuvre d'une humanité souffrante et liée à des choses grossièrement matérielles, telles la santé, l'argent et les maisons où nous vivons.
Vous avez reconnu, Amandine Gay, cet extrait d'Une chambre à soi de Virginia Woolf, lu par Aliette Ovine de l'équipe d'Entendez-vous l'écho. Il faut lire cet essai pour comprendre l'importance des conditions matérielles dans la création.
Oui, je pense que ça fait partie des essais qui sont essentiels, surtout quand on appartient aux communautés minoritaires et puis ou qu'on est une femme, etc., aux minorités de genre, pour comprendre qu'effectivement la création n'est pas décorrélée du monde réel. Je pense que c'est des conversations qui sont en plus extrêmement contemporaines, où il y a eu ce débat qui n'en finit pas sur doit-on séparer l'homme de l'artiste, par exemple. Ça aussi, ça fait partie de cette fiction selon laquelle un ou une artiste serait comme ça une entité qui serait séparée des conditions matérielles, et c'est faux. Pour écrire, il faut avoir le temps d'écrire, il faut avoir un espace pour écrire, une intimité, il faut avoir les moyens de ne pas avoir un job alimentaire. Donc voilà, tous ces enjeux-là, ils sont très importants, et c'est vrai que pour moi, ça a été un texte fondateur sur le fait que si je voulais me lancer dans la carrière artistique, il allait falloir développer un esprit aussi très très concret et un rapport voilà très précis au pécunier.
Alors on va revenir sur votre parcours, Amandine Gay, parce qu'il est important pour comprendre vos engagements, votre travail d'artiste. Après avoir fait Sciences Po Lyon, vous avez envisagé un temps le journalisme, puis vous avez rejoint le Conservatoire de théâtre du 16e arrondissement de Paris, et là, vous avez été confronté à un véritable déluge de préjugés.
Alors, disons qu'à l'école, on était très libre. C'est vraiment la confrontation avec l'industrie du cinéma et du théâtre, où là, j'ai effectivement découvert ce qu'était, donc là, on est à peu près en 2010, la vision des Noirs dans ces deux industries-là. Et donc, quand j'ai commencé à passer des auditions, je me suis rendu compte qu'effectivement, pour les personnes qui étaient comme moi, c'est-à-dire Noires, il n'y avait qu'un seul type de rôle, qui était des rôles extrêmement stéréotypés. Et d'ailleurs, autant sur des enjeux sociaux, mais aussi économiques. Parce que c'est toujours dans les CSP inférieurs, donc les jobs de type en tant que représentation, comme personnage, femme de ménage, mais aussi bien sûr tout ce qui a trait à la délinquance, donc personne qui sort ou qui va en prison, qui deal de la drogue, etc., le travail du sexe. Donc voilà, c'était très normé en termes de classe, en termes de race et en termes de genre.
Alors que c'est un petit peu différent du côté des États-Unis. Vous expliquez que, certes, il y a là-bas un capitalisme sauvage, mais en même temps, ça a ses avantages lorsque la perspective du profit, finalement, passe avant les préjugés raciaux.
C'est-à-dire que ce sont des espaces, les pays anglo-saxons, où on est capable de voir, par exemple, les communautés noires comme un public et donc une ressource commerciale. Et donc, à partir du moment où c'est une ressource commerciale, on va essayer de lui parler en des termes qui l'intéressent et qui font qu'ils vont venir payer leur ticket de cinéma ou qu'ils vont aller au théâtre, etc. Et donc ça, en fait, c'est assez paradoxal parce qu'effectivement, c'est le capitalisme l'alcoolisme dans sa forme la plus violente, mais du coup, sa forme la plus violente, c'est celle qui permet un espace de liberté et de création aux minoritaires, puisqu'à un moment donné, on va se dire, bah, si on n'arrive pas à attirer les noirs en salle, par exemple, bah, peut-être que ça vaudrait le coup de laisser des noirs ou de financer des noirs qui font leurs films pour voir si on peut avoir accès à cette population-là. Donc, c'est un calcul voilà, financier, mais en même temps, qui a des vraies conséquences, et là, positives, je dirais, pour ces communautés-là en termes de création, et on le voit très bien aujourd'hui avec cette énorme distance qu'il peut y avoir entre la proportion de personnes noires qui sont productrices, distributrices, réalisatrices, qui sont vraiment à des postes aussi de pouvoir dans les administrations, je pense par exemple même au théâtre public français, et quand on regarde en Grande-Bretagne, au Canada, aux États-Unis.
Et c'est justement pour vous libérer des stéréotypes qui pèsent sur les femmes noires, pour donner plus de visibilité, une autre visibilité à des personnages de femmes noires, que vous avez décidé de créer votre propre boîte de production, Bras de Fer, voilà, pour avoir cette possibilité de créer d'autres personnages.
Oui, alors on va pas se mentir, hein, au départ c'était pas vraiment un choix, c'est-à-dire que nous on a commencé par faire le film, donc Bras de Fer Production, c'est une boîte qu'on a montée avec Enrico Bartolucci, qui est mon partenaire de vie, mais aussi mon associé, et puis aussi mon partenaire créatif, parce que c'est le chef-op et le monteur, et pour ouvrir la voie, et pour une histoire à soi. Et donc nous, on a commencé par faire le film. Moi, je voulais faire ouvrir la voie, je voulais faire un documentaire où je donnais justement à voir les femmes noires telles que moi je les voyais, et je les fréquentais, et pas telles que l'industrie du cinéma se les imaginait, parce que moi, je m'étais même rendu compte de cet impact complètement pernicieux, qui est que quand on est dans une industrie qui est extrêmement endogame, et qui s'attache à perpétuer les stéréotypes, mais parce qu'en fait, c'est leur expérience. Ces personnes-là, qui sont majoritairement blanches, qui viennent des classes moyennes, supérieures et même vraiment parfois de la grande bourgeoisie, n'ont généralement comme rapport avec les personnes noires, là je prends la communauté que je connais le mieux, que des rapports effectivement extrêmement de subordonnés. Et donc ça, c'est leur imaginaire. Et donc moi, je m'étais rendu compte que j'allais en réunion voilà, avec des producteurs, etc. Et je donne toujours cet exemple parce que c'est le moment où j'ai compris que il allait vraiment falloir faire les choses en marge, puisqu'il n'était pas possible d'influer sur l'industrie, puisque ces producteurs me répondaient que mon personnage de lesbienne noire sommelière n'existait pas. Et donc moi, j'ai toujours expliqué ça. Je suis pansexuelle, j'ai managé un bar à vin, donc j'avais écrit un personnage qui me ressemblait beaucoup, puisqu'à l'époque j'étais comédienne et que je voulais le jouer. Et je me retrouvais dans des réunions avec des hommes blancs qui m'assuraient que ces femmes-là n'existaient pas, que moi j'existais pas. Et donc là, je me suis rendu compte qu'il y avait même pas, c'était même pas malin de leur part, quoi. C'était pas qu'ils voulaient perpétuer les stéréotypes. Comme ils n'en connaissaient pas, ils avaient décidé que ça n'existait pas. Et comme ils avaient décidé que ça n'existait pas, ça ne pouvait pas faire partie de la fiction. Et donc là, je me suis dit, ok, bon, on va reprendre par la base et on va commencer par le documentaire, et moi je vais vous montrer comme ça, voilà, un panel de femmes noires. Et puis même pour nous, moi je me disais, mais enfin c'est pas possible que dans l'espace audiovisuel français à l'époque, c'est donc 2014, il n'existe pas de femmes noires lesbiennes, et qu'il n'en existe tellement pas que les gens pensent que ça n'existe pas. Ça, c'est pas possible. Et donc on a commencé par faire le film, par nos propres moyens, tourné dans notre salon, et puis quand on s'est rendu compte que personne ne souhaitait nous accompagner, donc ni en production, ni en distribution, et que je connaissais un peu l'industrie justement, et que c'est aussi là qu'il y a du pouvoir, on s'est dit, bah, on monte la boîte de production et de distribution, et on sort le film en salle nous-mêmes.
Or, vous avez sorti en salle, et après 6 mois d'exploitation commerciale, vous avez commencé à gagner de l'argent, donc ça a aussi été une opération économique rentable, à Mondingue.
Tout à fait, bah, l'idée, hein, c'était vraiment de s'inspirer de ce qui se fait encore une fois aux États-Unis. Donc moi, c'est vrai que mon modèle, c'était Melvin Van Peebles, qui est donc effectivement une des personnes qu'on considère comme le parrain de la création de la Blaxploitation, donc qui est ce genre cinématographique des années 70. Mais en fait, Melvin Van Peebles, pour son premier film, a fait ça. Il l'a autoproduit. Lui, en fait, c'était un des premiers réalisateurs noirs qui travaillait à Hollywood et donc qui avait pu mettre assez d'argent de côté pour commencer ce projet, puis qui avait un réseau dans l'industrie du cinéma. Donc, qui a pu aussi engager des techniciens avec vraiment une vision globale que moi, j'admire beaucoup. C'est-à-dire que comme à l'époque, il n'y avait pas assez de noirs, de latinos qui étaient formés pour être techniciens du cinéma, tous les blancs qui ont travaillé sur Sweet Sweet Back Badass Song, donc le premier film autoproduit de Melvin Van Peebles, avait comme shadow, comme ombre, une personne noire ou latina qui pouvait apprendre le métier pour par la suite, ces personnes-là puissent travailler sur les tournages. Et donc voilà, avec cette vision très globale de comment est-ce qu'il allait faire en sorte de transformer l'industrie du cinéma, Melvin Van Peebles, en levant des fonds au sein de la communauté noire qui a de l'argent aux États-Unis, donc Harry Belafonte, enfin voilà, un certain nombre de stars de l'époque qui lui donnent de l'argent pour qu'il fasse son film indépendant. Et ensuite, il se trouve le soutien de deux frères dont j'ai oublié le nom, qui ont un cinéma à Détroit. Il lui laisse le cinéma pour le week-end en lui disant si jamais tu fais des entrées, ben on te garde à l'affiche, et si tu fais pas d'entrée, tant pis. Et donc la séance de l'après-midi ne fonctionne pas très bien, donc lui il va ratisser dans les quartiers noirs de Détroit en disant venez voir le film. Enfin c'est toute une épopée. Il y a un livre qui s'appelle Sweet Sweet Back Badass Song, A Guerrilla Filmmaking Manifesto. Donc c'est le manifeste du film guérilla et c'est vraiment super. Et le fils de Mario Van Peebles a aussi fait un film sur cette épopée de son père qui fait le film, et je vous le recommande fortement. Et donc en fait la séance du soir explose, et en fait c'est un énorme succès. Melvin Van Peebles se retrouve à faire des millions, le film est diffusé partout aux États-Unis, et à partir de là effectivement les studios hollywoodiens gérés par des personnes blanches se rendent compte qu'il y a un marché noir qui a été négligé, et donc c'est ce qui va donner tous les films à destination des communautés noires de la blaxploitation.
Melvin Van Peebles, qui est réalisateur, producteur et également qui a été trader dans les années 80, je vous propose de l'écouter.
Trader is different from a broker.
Un trader est différent d'un broker. Un broker n'est pas libre de faire ce qu'il veut avec ses deniers. Il prend ses ordres de l'extérieur et il les exécute. Un trader utilise son propre argent ou celui de son entreprise pour comprendre la stratégie du marché. Les personnes qui me connaissent ont été très surprises que je me lance dans le trading, car l'aspect le plus dur pour moi dans la production de films indépendants a toujours été de collecter des fonds et de conclure des contrats. C'est-à-dire exactement ce en quoi consiste le trading. Mais j'avais des facilités. Je suis plutôt bon avec les chiffres et j'ai trouvé ça très rafraîchissant de me tourner vers Wall Street. Vous savez, le milieu créatif est assez nébuleux. Vous n'êtes pas sûr d'avoir un scénario. Quand vous avez un scénario, vous n'êtes pas sûr d'avoir un producteur. Et ensuite, vous avez le distributeur, ensuite le public, s'il va aimer ou pas, puis les critiques, etc. Ça ne s'arrête jamais. Alors qu'à Wall Street, en 30 secondes, vous faites un deal. Qu'il soit bon ou mauvais, vous savez où vous en êtes.
Amandine Gay, qu'est-ce que vous pensez de cette idée originale? Qu'être producteur indépendant, c'est un peu comme être trader, mais en beaucoup plus difficile.
Moi, je suis assez d'accord. Je me dis que c'était décidément un personnage, Melvin Van Peebles. Mais oui, je pense qu'en plus, en particulier en France, il y a cette idée que d'un côté, il y aurait le monde de l'argent et de choses comme ça, très terre-à-terre, voire même un peu vulgaire. Et puis de l'autre côté, il y aurait le monde créatif. Et c'est vrai que moi, c'est une chose que j'aime beaucoup, encore une fois, dans les pays anglo-saxons. En fait, ces deux choses vont ensemble et elles vont aussi ensemble en France. C'est juste que les gens font semblant que ce n'est pas le cas. Mais il vaut mieux avoir un esprit un petit peu aiguisé sur les questions financières, en particulier quand on veut faire des films, et aussi parce que c'est aussi lié à notre imaginaire. On parle souvent aussi dans les tensions aujourd'hui sur plein de questions sociales, politiques, de la liberté académique, la liberté de création. Mais la liberté de création, elle peut aussi être complètement bridée par l'aspect financier. Si vous avez décidé de faire un film qui se passe dans l'espace, etc., et que vous êtes une femme, et qu'en France, on a les statistiques, et qu'au-delà de 20 millions d'euros, il n'y a pas de films qui sont réalisés par des femmes, du coup, votre film dans l'espace, ça va devoir être un huis clos. Donc, en fait, ça aussi, c'est une façon de limiter votre liberté créative. Donc, c'est en ça aussi, pour moi, que ça m'intéresse d'avoir une main sur l'argent et de comprendre comment ça fonctionne.
Votre premier documentaire, Ouvrir la voie, est sorti en salle en 2017. Votre objectif, c'était vraiment de faire exister politiquement des sujets qui sont minoritaires dans l'espace public?
Alors moi, je dirais vraiment, mon premier objectif, c'était de représenter des femmes noires. Moi, j'étais fatiguée entre les auditions que je passais, les conversations avec ces personnes qui me disaient que les femmes noires que j'avais écrites n'étaient pas réalistes, etc. Et je me disais, mais enfin, c'est pas possible, on est là, on existe. Et j'avais envie de montrer ça d'abord aussi pour nous. C'est-à-dire qu'encore une fois, une des choses qui va aussi brider votre imaginaire, c'est la capacité à vous projeter dans l'avenir. Et quand vous êtes une petite fille noire en France dans les années 80-90, qui était mon cas, moi je vais dire, à part effectivement Surya Bonaly, Marie-Josée Pérec, etc., Whitney Houston, Whoopi Goldberg, il n'y avait pas beaucoup de projections possibles sur qu'est-ce que ça peut être qu'être une femme noire adulte. Parce que je ne suis pas dans les films, donc je suis ni la secrétaire, ni la docteure, ni l'aventurière, etc. Je suis pas là, j'existe pas. Et donc pour moi, il y avait aussi cette idée de se dire, déjà ça, offrir aux générations suivantes une photographie de ce que c'était qu'être une femme noire en 2014.
Et bien je vous propose justement d'en écouter un extrait.
J'avais 3 ans, j'étais dans un parc et la petite fille, elle m'a dit non, je veux pas jouer avec toi parce que t'es noire. C'est la première fois. Et je m'en rappelle puisque ça m'a fait tellement mal que je m'en rappelle encore maintenant. Et je m'en rappelle même de là où j'étais, j'ai les images encore dans ma tête.
3 ans, c'est jeune, hein?
Ouais.
Moi, je m'en suis rendu compte parce que j'avais un amoureux, j'étais amoureuse de cet amoureux. Et il m'a dit « jamais t'es noire ».
J'étais dans la rue, je tenais la main à mon père, traversais la rue, et il y a une petite fille qui devait avoir mon âge et qui a dit « regarde maman, elle, elle est noire, elle est moche parce qu'elle est noire ».
Je me souviens que quand j'avais 7 ans, je disais un truc à ma mère et tout, je lui disais un truc du style genre « donc il y a machin qui est noir, machin qui est arabe et machin qui est normal ».
Moi, j'ai grandi au Sénégal, hein, donc les discriminations, enfin peut-être qu'on reviendra dessus, mais être noire, je l'ai découvert plus tard que j'étais noire. Moi, j'étais dans un milieu où le noir était justement la règle. Les blancs, on en voyait, mais tellement rarement que enfin, je ne sais même pas si ça existait, quoi. Ouais, la norme, c'était d'être noire.
Vous écoutez France Culture, entendez-vous l'écho. Nous sommes toujours en compagnie de la réalisatrice et essayiste Amandine Gay. Alors, dans ce documentaire, Amandine Gay, vous avez accordé une attention toute particulière à l'esthétique, car pour vous, elle est éminemment politique.
Oui, je pense que une des choses qui peut nous limiter, nous contraindre quand on appartient à des minorités, c'est effectivement ce qui est attendu de nous, l'endroit où on est censé exister. Et donc très souvent, bah si vous êtes une personne noire, vous êtes seulement là en train de faire un film antiraciste, etc. Et moi, en fait, je me vois d'abord comme une artiste et une cinéaste. Et donc bien sûr que ça m'intéresse de travailler la forme. Et c'est vrai que même quand on n'a pas d'argent, ce qui était le cas pour Ouvrir la voie, moi ce qui m'intéressait, c'était de voir qu'est-ce qu'on pouvait faire en termes de films de tête parlante, pour que ce soit un film de cinéma, pour que ce soit un film aussi justement qu'on n'ait jamais vu, parce que de toute façon, 2 heures de femmes noires à l'écran en plan serré, etc., c'est du jamais vu dans l'histoire du cinéma français, et qui sont là en train de parler de ce que c'est qu'être une femme noire en France, mais aussi de se dire voilà, moi on me disait, ah mais oui mais on vous fait moins travailler les noirs au cinéma parce que vous prenez moins bien la lumière, ce qui est éminemment faux. Si les chefs-op sont feignants et n'apprennent pas à éclairer les personnes qui ne sont pas blanches, c'est leur problème. Mais moi, ma peau, elle reflète très bien la lumière. Et donc, je voulais aussi montrer ça. Et il se trouve qu'on n'avait pas d'argent pour avoir, voilà, pour avoir des projecteurs, etc. Donc, on travaille en lumière naturelle et on montre ces femmes noires dans toute leur beauté, qui n'est pas la beauté au sens, voilà, commercial de la pub. Mais de bien sûr que nos peaux sont magnifiques et prennent très bien la lumière. Et donc, il y avait vraiment toute cette idée de se dire qu'est-ce que je peux traduire en image de ce que je veux dire politiquement. Et donc, que ce soit effectivement de les filmer en légère contre-plongée, qui leur donne une plus grande prestance à l'écran, de se débarrasser de toutes les scories du reportage télé quand il y a de la tête dans, quand il y a des images, voilà, du docu tête parlante mais à la télé avec beaucoup de plans de coupe sur les mains, les gens qui marchent, qui font leur vaisselle ou que sais-je, ou avec voilà des petits bandeaux qui apparaissent à l'écran pour donner leur nom, leur âge. Moi je me disais mais on aura bien plus de leur personnalité, de qui elles sont en les voyant comme ça à l'écran, en plan serré pendant 2 heures, que si je vous mets Martine, 37 ans, infirmière.
Et pour ce documentaire, vous n'avez pas obtenu d'aide du CNC, Amandine Gay. Or, pour les artistes, l'accès à l'argent public est évidemment fondamental. Et il y a encore plus de barrières pour les femmes, et a fortiori pour les femmes noires.
Oui, et puis aussi, encore une fois, pour, je dirais, les pauvres, entre guillemets, ou en tout cas les personnes qui ne viennent pas aussi de cette industrie. Donc c'est un mélange capital culturel, capital économique. Pour obtenir les aides du CNC, il faut être une boîte de production qui a 45 000 euros de capital social, dont 22 500 libérés. Nous, quand on a monté la SAS Bras de Fer Production avec Enrico, bah, on a mis 500 euros chacun, on avait 1 000 euros de capital social. On a fait un film pirate, un film guérilla, on les appelle comme on veut, donc tourné dans notre salon où personne n'est payé puisque bah, c'est nous qui le faisons, etc. Donc c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir ensuite l'agrément de production du CNC qui vérifie que le film a été fait dans les règles de l'art. Et donc pour être ensuite éligible au fonds de soutien automatique, qui est donc ce système qui est mis en place à partir du nombre d'entrées que vous avez fait avec votre film et qui vous permettent de récupérer de l'argent du CNC et donc d'avoir un petit fonds qui va vous permettre aussi de développer les projets suivants. Et ben normalement, ce fonds-là aussi, il s'alimente avec les entrées en salle, avec ce qu'on appelle la taxe, j'oublie toujours, S additionnelle, en tout cas, donc la TSA, qui est à peu près 10, et quelques pourcents qui sont pris sur chaque ticket de cinéma vendu en France. Et donc, cette manne d'argent, elle arrive dans les caisses du CNC, ça permet ensuite de financer le cinéma indépendant. Et donc, nous, on a été prélevés de la TSA pour chaque ticket d'entrée d'Ouvrir la voie qui a été vendu. Et Ouvrir la voie a fait plus de 20 000 entrées. Donc, on a bien contribué à faire rentrer de l'argent dans les caisses du CNC.
Donc, vous pouvez espérer des financements pour un prochain projet.
Mais on ne peut pas, puisqu'en fait, notre boîte de production n'a pas 45 000 euros de capital social et on ne peut pas obtenir l'agrément puisque notre film a été fait de façon pirate. Donc, moi, je contribue à l'institution qui part à la suite à, on va dire, des garde-fous en place pour que les gens comme moi ne puissent pas toucher l'argent. Donc, on a quand même réussi à faire de l'argent avec Ouvrir la voie, avec justement les entrées en salle, les ventes télé, les ventes à l'international. nationale, et donc on a pu faire l'augmentation de capital. Donc en fait, on va être éligible au fonds de soutien automatique pour Une histoire à soi. Mais ça aussi, ça pose des vraies questions de classe. Qui peut faire un film autoproduit, autodistribué, etc., qui ensuite peut tenir pendant tout ce temps-là sans avoir d'argent qui rentre, sans avoir l'argent qui rentre de l'institution pour vous aider à financer le second? Et donc c'est sûr que moi, si j'avais pas énormément de cordes à mon arc, et nous, les premières années de bras de fer, on a fait de l'argent parce que je donne des conférences avec tout ce qu'on a pu faire autour du film. Mais sinon, on n'aurait pas pu tenir. Et donc cette question, effectivement, elle vient aussi poser l'enjeu, là, à nouveau, plutôt de la race, etc., de même moi, quand on me regarde socialement, oui, je suis noire, mais je suis adoptée. J'ai grandi dans une famille blanche, je suis diplômée de Sciences Po, je suis en couple avec un homme blanc issu de la bourgeoisie. Donc c'est pour ça que moi, j'ai pu arrêter d'être serveuse, de travailler sur mon film. Il se trouve qu'en plus, il était photographe, qu'il avait les compétences techniques, donc on a pu faire le film chez nous, etc.
Donc il y a énormément de conditions qui font réunir, et c'est ce qui explique, Amandine Gay, que en France, plus les budgets des films augmentent, plus les femmes disparaissent. C'est aussi ce qui explique ça, et aussi le fait que les réalisatrices femmes disparaissent souvent au bout de quelques films.
Oui, parce que là c'est l'enjeu de genre aussi. Dans le monde du travail en général, les écarts de salaire se creusent à partir du premier enfant. Encore aujourd'hui en France, ce sont majoritairement les femmes qui s'arrêtent, et quand vous arrêtez le temps de la grossesse, le temps du congé parental, etc., c'est autant de temps que vous ne passez pas à faire progresser votre carrière. Et donc c'est exactement ce qui se passe aussi dans le monde du cinéma. Les femmes disparaissent en tout cas sur une période donnée, donc sur une période de 10 ans, les femmes qui arrivent à faire 5 films sont très peu nombreuses, alors qu'il va y en avoir, bon, je connais pas les chiffres de tête, mais il va y avoir beaucoup plus d'hommes qui arrivent à faire, les femmes font en 10 ans plus facilement 3 films, et encore quoi, souvent entre 1 et 3.
Vous avez publié au mois de septembre votre premier essai, Une poupée en chocolat, et c'est à ce moment-là que vous avez tenu à alerter contre les inégalités femmes-hommes et les inégalités entre femmes noires et femmes blanches qui perdurent aussi dans le secteur de l'édition.
Oui, bien sûr, parce que, encore une fois, comme je vous disais, il y a quelque chose en France d'un rapport très complexe à l'argent, où on n'aime pas parler d'argent, où on ne veut pas aborder ces questions-là publiquement. Et si elles ne sont pas abordées publiquement, on ne peut pas réduire les inégalités. Et donc moi, c'est vrai que j'avais été extrêmement surprise. C'était une surprise qui était très positive, puisqu'il y a eu un mouvement qui a été initié donc par des autrices, par une femme noire aux États-Unis, qui a lancé un hashtag qui s'appelle Publishing Paid Me. Donc ça veut dire le monde de l'édition m'a payé. Et en fait, elle a demandé donc sur Twitter à ce que les autrices et les auteurs blancs révèlent le montant des avances qu'ils percevaient pour leurs livres, pour montrer, pour qu'on ait effectivement une vision claire de quelles étaient les disparités entre les avances reçues par les auteurs autrices racisées et puis les auteurs autrices blanches. Et aux États-Unis, et en Angleterre et au Canada, les auteurs et autrices blanches ont répondu présents et ont publicisé les montants de leurs avances depuis leur premier livre jusqu'à là où ils en étaient de leur carrière, etc. Et c'était absolument incroyable, c'est-à-dire qu'on a découvert des inégalités monstrueuses. Moi, je me rappelle d'avoir vu les avances qu'avait reçues Roxane Gay, qui est une rockstar du monde de l'édition aux États-Unis, mais qui est une femme noire lesbienne en plus, qui vend énormément de livres, mais qui a reçu des avances ridicules pour ses trois premiers livres.
Ça a permis de faire bouger un petit peu les lignes aux États-Unis.
Oui, ça a fait bouger beaucoup de choses, parce qu'en fait, ça force aussi les maisons d'édition à rendre des comptes. C'est-à-dire que là, à partir du moment où tout est fait et dans la transparence, il faut pouvoir argumenter pourquoi est-ce qu'une autrice aussi connue et aussi qui vend autant de livres que Roxane Gay va toucher presque parfois 10 fois moins qu'une inconnue blanche. Là, il va falloir pouvoir l'argumenter. Sinon, on n'a pas accès aux chiffres, on ne peut pas prouver qu'il y a de la discrimination. Et on ne peut pas faire en sorte que ça change.
Et ça, c'est possible en France, de telles révélations?
Moi, j'ai tenté. Hein. J'ai publié le montant de l'avance que j'avais reçue à la découverte pour Une poupée en chocolat. Et j'ai fait justement un thread en expliquant pourquoi je pensais qu'il était temps qu'en France aussi, en particulier dans les milieux qui se disent de gauche, les personnes prennent leur courage à deux mains. Parce que bien sûr que c'est inconfortable. Bien sûr qu'on ne veut pas être la femme blanche qui a pris 10 fois plus qu'une femme noire qui a peut-être le même profil pour son premier essai. C'est un peu gênant d'être là. Mais en fait, ça vous demande juste un peu d'inconfort de partager le montant de vos avances, et ça va changer tellement de choses pour des jeunes auteurs, autrices, racisés, pour qu'on sache où on se situe, pour qu'on sache ce qui est inacceptable qu'on nous propose, et pour qu'on apprenne aussi à négocier. Je veux dire, il y a aussi tout cet enjeu de, c'est pas inné, la capacité à bien gérer ses affaires, à être en mesure de progresser dans sa carrière, etc., ça s'apprend. Et si vous venez d'un milieu privilégié, vous l'avez appris sans vous en rendre compte, c'est la socialisation que vous avez dans les milieux bourgeois, il y a quelqu'un dans votre entourage entourage qui est déjà écrivain, écrivaine ou qui travaille dans une maison d'édition, vous pouvez poser ces questions discrètement. Vous savez déjà au fur et à mesure quels sont les montants auxquels vous pouvez vous attendre. Si vous êtes comme moi, que vous êtes la fille d'une institutrice et d'un cantonnier, que vous venez de la campagne lyonnaise, le temps et le trajet que ça vous a pris déjà pour arriver jusqu'à Paris aux maisons d'édition, c'est un peu compliqué. Moi, il n'y a personne à qui je peux demander dans mon entourage.
Et donc, vous êtes passé par Twitter pour révéler le montant de cette avance et vous n'avez eu que très peu d'écho.
Ah, il y a eu zéro écho. Je sais que ça a eu, en plus, ça a même eu un effet. La seule chose que j'ai su par retour de conversation, c'est que plusieurs maisons d'édition, et en particulier des plus petites maisons d'édition, où plusieurs personnes, encore une fois, dans les milieux qui se disent de gauche, trouvaient ça scandaleux que j'ai partagé le montant de mon avance parce que maintenant, d'autres personnes risquaient de demander des avances qui considéraient aussi élevées, donc d'autres personnes noires, d'autres minoritaires, etc. Et que ça allait être compliqué pour leur business model. Mais moi, j'ai envie de dire, si vous vous pensez de gauche, d'extrême gauche, et que votre business model repose sur l'ignorance de vos auteurs, autrices racisés ou minorités de genre ou personnes en situation de handicap, faut vous poser des questions, quoi.
Alors, au-delà des secteurs culturels, de l'édition, du cinéma, ce que l'on observe, c'est qu'évidemment, les femmes noires sont encore trop rares dans un certain nombre de filières.
En école d'ingénieur, des femmes noires, en 3 ans, j'en ai rencontré 2. Donc, on n'était vraiment pas beaucoup. Et on est dans un milieu, déjà, le milieu de l'ingénierie, déjà, de base, c'est un milieu qui est extrêmement masculin. En bio, il y a un peu plus de filles, mais pas beaucoup d'ingénieurs, on va dire. Et alors, femmes noires en afro qui débarquent avec ses baskets et ses yo, non, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Disons que j'ai senti que j'étais spéciale. Ça veut dire qu'au départ, lorsque j'ai commencé à travailler, j'ai reçu des remarques qui étaient très désobligeantes. C'est-à-dire qu'un de mes collègues, par exemple, je suis rentrée dans le bureau, il a commencé à chanter Asi Bonanga. Donc voilà, j'ai recadré un peu les choses. Ensuite, c'est pas vraiment sur mon côté noir, ce serait plutôt sur mon origine sociale. Des gens de banlieue qui débarquent dans l'industrie pharma, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Qui débarquent en tant que manager, coordinateur, organisateur, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Donc c'est un truc qu'il faut s'imposer. C'est clairement ça, il faut s'imposer dans un milieu d'hommes blancs et il faut s'imposer.
Autre extrait de votre documentaire « Ouvrir la voie », Amandine Gay, être une femme noire et issue des classes populaires en France, c'est la triple peine.
Ouais, je dis... disons que c'est pas simple. Il faut être armé, il faut, encore une fois, avoir un bon bagage éducatif, être en mesure de se trouver aussi des alliés quand même. Parce que de toute façon, il arrive un stade où vous ne pourrez pas progresser dans ces industries-là si vous ne trouvez pas, dans mon cas, des personnes blanches du monde du cinéma qui ont décidé de faire en sorte que je puisse avoir accès aux infos, au financement, etc. Donc voilà, c'est tout un ensemble de connaissances, que ce soit sur effectivement la capacité à écrire des dossiers de demande de financement, à collecter l'information, à pas avoir peur de poser des questions, ne serait-ce que ça, d'être tout à fait transparente sur, moi je veux dire, je mais un peu moins maintenant, mais moi je considère que chaque projet c'est l'école de cinéma. J'ai pas été en école de cinéma, il y a plein de choses que je connais pas encore aujourd'hui, même parfois. Parfois, on a des contrats à signer, notre avocate nous envoie des questions. Moi, je réponds en disant, là, je n'ai pas compris la question. Et ça, je pense que c'est aussi important de ne pas avoir honte de ça. Souvent, quand on vient des milieux populaires, on a honte de notre ignorance et on ne doit pas. On peut apprendre au fur et à mesure.
Amandine Gay, on a évoqué vos références, vos influences cinématographiques, notamment Melvin Van Peebles. Il est temps à présent d'écouter l'une de vos références musicales.
Half a murder, half a saint. Chains, guns, and waves. Couldn't drag me down, couldn't keep me down. I'm a bad bitch. Create the wilderness in your heart, in your mind. Shake loose from the sanity, leave it all the end. Great garden where tree trunks for backbones. Great garden.
L'extraordinaire Mélissa Lavaux sur France Culture. D'entendez-vous l'écho, le choix de notre invitée, la cinéaste et autrice Amandine Gay, qui est venue nous parler, entre autres, des liens entre argent et création. Amandine Gay, comment votre vision de l'économie s'est-elle forgée? Quel rôle en particulier vos origines sociales ont joué dans votre conception des rapports de forces économiques tels qu'ils existent aujourd'hui?
Bah, je pense que quand on est du côté qui reçoit le bâton, c'est assez simple de comprendre quelles sont les conséquences des inégalités économiques. Non, mais c'est vrai. Enfin, je sais pas. Même des choses très bêtes, enfin, dont on parle souvent par ailleurs avec des gens de mon entourage. Mais oui, faire les courses en regardant l'étagère du bas. Moi, je sais que c'était la pratique. C'est voilà, c'est la marque repère. Il y a toute une façon d'organiser sa vie. Quand on vient des classes populaires, de ce qu'on peut regarder même ou pas regarder dans les choses qu'on peut s'offrir, et puis de voir ce qu'est le mépris de classe aussi. Moi, je, en particulier, mon père qui balayait les rues, la façon dont certaines personnes pouvaient lui parler, le regarder, etc. C'est quelque chose voilà de très prégnant, et puis que j'ai pu vivre à mon tour quand je suis arrivée à Sciences Po, et que là j'ai bien senti qu'effectivement je ne venais pas du même milieu social que les gens qui m'entouraient. Donc c'est des souvenirs et puis des choses qui peuvent être réactivées dans le ton qu'on emploie quand on vous parle, etc. Mais aussi, en tout cas, de mon côté, et puis quelque chose qui m'a été même, de toute façon, dit dans ma famille, il y avait aussi cet enjeu de « il ne faut pas dépendre financièrement d'un homme », etc. Donc, de la question aussi de l'argent et du genre, et d'avoir son propre argent, et d'être indépendante, etc. Et puis de comment est-ce qu'effectivement, maintenant que je suis plutôt dans le monde de la création, etc., comment conserver mon indépendance. Et effectivement, ça vient de l'argent. Si je suis solide financièrement, je peux prendre du temps entre mes projets et donc les monter exactement comme je veux, et pas parce que c'est la panique à bord et qu'il faut absolument écrire un dossier de demande de financement.
Cette prise de conscience des inégalités économiques, sociales, elle a été source d'une colère chez vous qui finalement s'est peut-être manifestée en particulier lorsque vous êtes arrivé à Sciences Po. Il y avait ce choc culturel et cette peut-être prise de conscience du poids des origines sociales sur le capital culturel.
Oui, bien sûr. Et puis, bon, après, il faut le dire aussi, hein, y a aussi toujours quand même cette question un peu de la honte. Moi, par exemple, j'ai vidé mon compte épargne de La Poste ma première année à Sciences Po parce que je voulais pouvoir sortir avec les gens de ma promo sans qu'ils voient que j'avais pas l'argent. Bon, après, du coup, j'ai commencé la vie que je n'ai pas cessé depuis, qui est d'avoir en moyenne toujours 2 à 3 jobs pour pouvoir tenir le choc. Mais oui, c'est cet enjeu-là, simplement, de pas vouloir montrer qu'on n'a pas les moyens de suivre. Et puis ensuite, il y a effectivement le fait que de toute façon ça se voit parce que vous n'avez pas le capital culturel par exemple. Et donc voilà, je l'ai souvent dit, mais le nombre de fois en première année où je me suis retrouvée dans des conversations et où on parlait, je sais pas, de Pina Bausch, enfin de plein de références culturelles que j'avais pas, et donc je disais ah mais c'est qui, ah bah c'est quoi, et puis on disait ah mais tu connais pas, mais avec ce ton méprisant quoi, ah mais tu connais pas, ah tu connais pas hein. et donc ça pour moi c'était vraiment très très souffrant. J'étais jeune, en plus j'avais 17-18 ans à cette époque là donc moi j'avais un petit carnet, c'était avant internet, et donc j'allais aux toilettes noter toutes les choses que je connaissais pas qui avaient été dites pendant la soirée pour après aller au CDI, essayer de trouver les disques, etc. Toutes les choses qui avaient été mentionnées. J'étais au bureau des élèves et je m'occupais de la commission culture. Et donc comme ça, voilà, c'est vrai que moi, mon temps à Sciences Po, il y avait Bobinophile, donc une asso de cinéphiles. On était en face du Comédia à Lyon, qui est donc un cinéma art et essai. Et j'ai fait énormément de rattrapage social, culturel, pour voilà maîtriser les références et les codes bourgeois en fait, parce que j'en avais marre d'être larguée et puis je voulais pas être découverte en deux secondes. Maintenant, je m'en fous. Mais quand j'étais plus jeune, ça avait beaucoup d'importance.
Vous avez évoqué la honte, Amandine Gay. Il y a aussi la colère que vous avez évoquée plusieurs fois dans des interviews précédentes. Une colère née de votre conscience de classe qui a été un moteur pour vous et que vous avez hérité plutôt de votre mère.
Oui, ma mère, elle avait vraiment ce côté même de dire on peut pas être amie avec les bourgeois, par exemple. Ça, c'était un de ces trucs que moi, je trouvais un peu extrême quand j'étais enfant, mais que j'ai effectivement compris parce que il y a aussi cette idée d'être l'ami noir, l'ami pauvre, et je l'ai vécu et c'est très désagréable. Et effectivement, ça vous met en colère ou simplement de voir les choses qui vous sont barrées parce que vous venez pas du bon milieu social ou auquel vous pourrez accéder, mais 10 ans plus tard. Voilà, je me suis aussi rendu compte que on peut prendre des chemins de traverse, mais par exemple, ces discours qu'on entend beaucoup aujourd'hui, quand on veut, on peut, c'est complètement fallacieux. Et des discours que des personnes aussi issues de milieux privilégiés adorent raconter sur elles-mêmes. Je me suis fait tout seul ou toute seule. Moi, combien de fois j'ai entendu ça dans des gens de mon entourage qui, en fait, ont un père qui a une entreprise, un oncle qui leur a donné accès à leur carnet d'adresses, qui vont à des mariages. Moi, quand j'ai compris à quel point le mariage dans les milieux bourgeois, encore aujourd'hui, sont des lieux de réseautage intense pour aller parler. Moi, j'ai plein d'amis qui, après un mariage, ont rendez-vous avec tel rédac chef d'une rédaction parisienne, etc. Parce que c'était le père d'une amie qui se marie, etc. Moi, ça m'est jamais arrivé. Moi, j'ai jamais été invitée à des mariages où je peux rencontrer des gens à qui je peux genre pitcher mes films ou qui vont me donner un rendez-vous après, quoi. Donc oui, c'est vrai qu'il y avait cette frustration aussi, je pense, surtout quand on est convaincu qu'on a des capacités, et c'était mon cas, et de me dire, mais le temps que je perds juste parce que je suis pauvre, quoi, ou juste parce que je suis pas parmi les plus pauvres, mais je suis pas assez riche, je viens pas de Paris, je viens pas des bons milieux, et donc ça veut dire que moi, mon premier long métrage de fiction, ça n'arrivera pas avant mes 40 ans, et donc oui, ça continue à m'agacer aujourd'hui. Ouais.
Dans votre intérêt pour l'économie, il y a eu plusieurs autrices qui ont joué un rôle. Alors on a évoqué tout à l'heure Virginia Woolf et l'importance des conditions matérielles pour la création. Il y a aussi eu la lecture de Christine Delphi qui a été importante pour vous, cette découverte féminisme matérialiste qui analyse les rapports de genre à travers les rapports sociaux et les outils du marxisme. Ça a été important pour vous ?
Ah oui, c'est très important parce que sinon c'est compliqué de comprendre effectivement où on se situe en tant que femme dans la société et justement quels sont les moments où on va perdre du terrain. Par exemple, encore une fois, c'est pour ça que j'ai donné cet exemple du creusement des écarts de salaire au moment du premier enfant. Mais ça, il faut le savoir, quoi. Il faut le savoir avant de se mettre avec quelqu'un, avant de faire un enfant et pas se le prendre de plein fouet. Moi, ça m'est arrivé à de très nombreuses reprises que des femmes qui tiennent le discours « je ne suis pas féministe », etc., mais qui ont eu entre un et trois enfants et qui sont pourtant dans des professions intellectuelles qui ne viennent pas forcément de milieux défavorisés, mais n'ayant pas eu cette éducation féministe matérialiste de comprendre que les inégalités, ça se gère dès les inégalités de patrimoine, de qui va hériter de quoi, de qui va avoir des promotions parce qu'on peut avoir cette sociabilité après le travail qui font qu'on va avoir des promotions plus facilement, etc., qu'on va savoir quels sont les postes qui s'ouvrent et des informations auxquelles on n'aura pas accès si on a été chercher les gosses à l'école. Toutes ces stratégies-là à mettre en place pour ne pas se retrouver à 40-45 ans, pas mariée, avec un à trois enfants, en n'étant pas celle qui a acheté la maison et qui, si jamais elle veut partir, elle se met dans une situation de précarité immense. Et moi, j'ai eu des conversations avec des femmes entre 40 et 50 ans, encore une fois, qui n'est pas du tout milieu défavorisé et qui se retrouvent à ne pas pouvoir partir parce qu'elles savent, alors si tant est que ce soit leur choix de partir, elles peuvent aussi être quittées pour une femme plus jeune, etc. Et en plus, comme elles ont eu l'impression qu'il y avait le féminisme et que tout avait changé, elles se sont pas mariées et le mariage, ça reste quand même une institution qui vous protège financièrement. En France, contrairement au Canada, par exemple, où si vous êtes conjoint de fait depuis longtemps, vous pourrez avoir moitié-moitié. En France, c'est pas le cas. Si vous n'êtes pas marié, vous allez avoir une perte drastique de votre niveau de vie vous auriez pu éviter ça si vous aviez été féministe matérialiste ou afro-féministe matérialiste.
Être une femme avant la légalisation de l'IVG, c'était aussi être exposé à la possibilité d'un avortement clandestin, périlleux, coûteux, comme dans le film Dirty Dancing d'Emile Aroldino qui se déroule dans les années 60 aux États-Unis. Dans l'extrait que vous allez entendre, la jeune danseuse Penny vient de se rendre compte qu'elle est enceinte et face à elle, l'héroïne du film bébé, issue d'un milieu bourgeois, cherche une solution.
C'est affreux, je suis complètement à bout.
Mais ça va s'arranger. On va te sortir de là.
Bébé, tu vois ces larmes? Tu risques pas d'avoir les mêmes? Tu connais pas mon problème, alors tais-toi.
Je lui ai dit...
Cette fois, tes barges, elle va les tout raconter au fils du patron. Et du coup, on est bon pour se faire virer. Pourquoi quoi à ne pas l'écrire en lettres de néon, pénis, les fait mettre en cloque par Robbie.
C'est Robbie?
Surtout. Ah, elle dira rien, Jenny, elle dira rien. Il faut absolument trouver un docteur. Faut un toubib, un vrai. Il y en a un qui arrive dans la région la semaine prochaine. On peut le faire venir, mais ça coûte $250.
Si c'est Robbie le coupable, c'est lui qui devrait payer. Je suis sûre qu'il a les moyens. Vous n'avez qu'à lui expliquer.
Il s'en fout. Tu peux retourner jouer à la poupée. Bébé.
Voilà un extrait de Dirty Dancing. De quoi cette scène est-elle emblématique selon vous, Amandine Gay?
Ah bah elle est emblématique des rapports de classe et puis de justement cette bienveillance ou naïveté que peuvent avoir les personnes issues de milieux privilégiés quant aux problèmes des personnes qui viennent des classes populaires. Moi j'adore ce film parce que bon, donc j'aime les comédies romantiques par ailleurs, je suis très fleur bleue, mais en fait ce qui est génial avec Dirty Dancing, c'est que ça apparaît comme une comédie romantique un peu niaise, et quand on gratte, c'est vraiment un film sur les rapports de classe. Ça traverse le film en permanence tout le temps. De cette fille qui vient de cette bourgeoisie new-yorkaise, qui s'amourache du bad boy. Mais effectivement, le cœur de toutes les tensions narratives du film, c'est les rapports de classe. Est-ce qu'on peut avorter si on n'a pas d'argent? On risque de perdre son travail. C'est des gens qui ont presque le même âge. Et elle va dans cette belle, dans ce beau lieu de villégiature pendant que les gens qui ont son âge travaillent et se retrouvent face à des problèmes qu'ils peuvent pas régler, alors qu'elle, il lui suffit d'aller demander l'argent à son père et puis le problème est passé.
Cette question du capital, Amandine Gay, dépend évidemment aussi de la race. Alors la race évidemment au sens social, la transmission du patrimoine ne se joue pas de la même façon dans les milieux dits racisés.
Oui, ça c'est vrai que c'est un enjeu qui moi m'a toujours passionné, parce que quand on a commencé à émerger dans l'espace public autour de 2012-2014, une des premières critiques qu'on a eues, et qui venait d'ailleurs souvent de la gauche et de l'extrême gauche, c'était qu'on était des bourgeoises noires et qu'on était là à vouloir parler d'afroféminisme, et donc encore une fois le vrai combat c'était la classe. Et donc déjà, c'était, il y avait un premier a priori dans cette assertion, qui était que en fait, pour que des femmes noires prennent la parole, il fallait que ce soit des bourgeoises. Donc déjà, il y avait un vrai mépris de classe. Ça veut dire que si on venait de milieu populaire, on n'était pas en mesure de s'exprimer sur ce qui nous arrive. Bon, alors déjà, faut se poser des questions quand on pense comme ça à gauche. Première chose. Deuxième chose, il y avait cette idée de se dire, mais en fait, pourquoi est-ce que on associe le capital culturel avec le capital économique? C'est vrai qu'aujourd'hui en France, il y a effectivement une certaine proportion de la population noire, arabe, asiatique qui a pu faire des études supérieures, etc. Mais en fait, ça se traduit pas économiquement immédiatement. D'autant que dans ces milieux-là, très souvent, on n'a pas ce qu'on appelle la richesse générationnelle dans les pays anglo-saxons, generational wealth, le patrimoine, entre autres. Et que donc, il faut voir aussi, même si dans le film, par exemple, on a entendu un extrait dans Ouvrir la voie d'une jeune fille qui est ingénieure, mais elle est la première de sa famille et peut-être la seule dans sa fratrie à arriver à ce niveau de rémunération. Donc ce qui se passe souvent dans les communautés noires et arabes, c'est qu'en fait, les premières personnes qui commencent à bien gagner leur vie, en fait, donnent de l'argent à leurs aînés, à leurs frères et sœurs, à la famille, au pays, etc. Et donc, au lieu de pouvoir accumuler ce que font les personnes blanches qui viennent de la classe moyenne supérieure, qui peuvent hériter de leurs grands-parents, de leurs parents, qui vont avoir un travail et qui savent qu'à terme, même si c'est pas immédiat, elles vont hériter. Les personnes noires et arabes et asiatiques qui sont dans les premières à bien gagner leur vie aujourd'hui, en fait, souvent, elles se retrouvent à redonner de l'argent et donc, en fait, à ne pas pouvoir capitaliser sur ces revenus qu'elles ont pu acquérir par le biais des études.
Il y a un autre sujet qui vous a beaucoup intéressé, en particulier ces derniers temps, Amandine Gay, c'est le fait que les rapports de classe se jouent aussi autour de la question d'avoir ou non un enfant. C'est le concept de justice reproductive, cette idée que les problématiques face à la reproduction ne sont pas les mêmes selon qu'on est une femme noire ou blanche. Donc des rapports de classe et des rapports de genre, ça c'est un concept que vous tentez de populariser en France aujourd'hui.
Oui, parce qu'encore une fois, si on n'arrive pas à lier les questions du faire famille avec les questions d'égalité et de justice sociale, on ne peut pas comprendre un certain nombre de phénomènes. On ne peut pas prendre par exemple la question de l'accès à la procréation médicalement assistée pour toutes et tous sous l'angle juste médical. On doit le voir sous l'angle politique. Je donne souvent cet exemple des femmes noires lesbiennes qui sont basées en Guadeloupe, où l'hôpital a brûlé en 2017 et n'a toujours pas été reconstruit et où il n'y a donc pas de sécos, qui sont les lieux où on peut mettre en place la procréation médicalement assistée. Même si la loi a changé aujourd'hui et que ce couple de lesbiennes noires de Guadeloupe pourrait avoir accès à la procréation médicalement assistée remboursée par la sécurité sociale, en fait, pour pouvoir y avoir accès, elles vont devoir venir en France hexagonale. Le prix d'un billet d'avion de la Guadeloupe à la France hexagonale, il est bien plus élevé, par exemple, que le prix d'un billet de train de Paris pour aller en Belgique. Donc ça va potentiellement toujours coûter moins cher à un couple de lesbiennes blanches d'avoir recours à une PMA privée en Belgique que ça ne le coûterait pas à un couple de lesbiennes noires de Guadeloupe qui vont devoir faire des allers-retours, se payer l'hôtel, venir ici, etc. Donc ça, pour moi, la justice reproductive, c'est vraiment cette lunette qui permet d'aller voir dans le détail ce qui va permettre à certains groupes de faire famille ou non, à certaines familles de rester unies ou d'être séparées, détruites par les institutions.
Et c'est dans ce contexte que vous vous êtes intéressé à l'adoption comme un phénomène politique, sociologique et économique. Et c'est avec cette archive des années 40 que vous ouvrez votre deuxième documentaire « Une histoire à soi » sorti l'an dernier.
En cette journée, notre pensée se tourne également vers les tout-petits que leur mère se trouve dans la triste obligation d'abandonner. À l'œuvre admirable qu'est la Fondation d'Euqueville à Paris, l'enfant que la mère laissera ici tout à l'heure est soumis à un premier examen.
Point de naissance.
3420. L'enfant subira ensuite des épreuves biologiques et des enquêtes sur ses hérédités, ce qui permettra de retenir seulement les sujets d'élite. L'œuvre a reçu de l'État la mission de développer en France l'adoption, qui doit jouer un rôle primordial dans la lutte contre l'avortement. La Fondation reçoit plus de 10 demandes d'adoption par pupille. Ce ménage a reçu la garde temporaire de l'enfant sous le couvert de l'œuvre. Dans quelques années, il l'adoptera ou le légitimera devant la loi. Un enfant sans famille a trouvé une famille. Une famille sans enfant a trouvé un enfant.
Voilà un extrait d'une histoire à soi. Alors évidemment, bon, depuis les années 40, certaines choses ont évolué. Quels sont les différents facteurs aujourd'hui, Amandine Gay, qui expliquent le développement de l'adoption transnationale, en particulier depuis les années 60?
Alors, le premier facteur, ça a été une demande croissante dans les pays occidentaux, c'est-à-dire qu'à partir des années 60 et avec la progression justement des droits reproductifs des femmes des pays occidentaux, donc l'accès à la contraception, à l'avortement, la possibilité aussi facilitée de rentrer sur le marché du travail et donc le recul de l'âge du premier enfant, on se fait face à une société où le besoin de bébés blancs en bonne santé pour des personnes qui seraient infertiles, soit justement voilà pour des questions médicales ou parce qu'elles essayent d'avoir des enfants trop tard, etc., explose. Et donc en fait, dans le même temps, il y a de moins en moins d'enfants qui sont disponibles pour l'adoption dans ces pays-là, puisque les femmes ont accès à la contraception, etc. Donc c'est d'abord une demande croissante dans les pays occidentaux, et donc à partir du moment où cette demande croissante ne rencontre pas une offre d'enfants dans ces pays-là, qu'on se tourne vers l'étranger et qu'on se dit bah voilà, il y a des espaces où justement les femmes n'ont pas encore accès à la contraception ou à une vraie gestion de leurs droits reproductifs, donc il y a beaucoup d'enfants disponibles et donc on va pouvoir aller adopter là-bas.
Et c'est dans ce contexte que vous avez lancé ce documentaire, Amandine Gay, avec cet objectif, cette idée de montrer que finalement l'adoption transnationale, c'est un véritable marché. Vous vouliez montrer cette dimension économique, cette logique de marché qui sous-tend le phénomène.
Disons que moi, ce qui m'intéressait, c'était de politiser l'adoption au sens large. C'est-à-dire qu'il y a un ensemble de thématiques qui sont abordées dans le film, justement pour montrer que le discours qu'on avait eu jusque-là, qui était un discours soit sur l'amour plus fort que tout, ou voire même le discours humanitaire, on va sauver des enfants, c'est un discours qui avait complètement masqué la réalité de la pratique. La dimension marchande en fait partie, mais la dimension aussi géopolitique, quels sont les pays dans lesquels on peut se pointer pour prendre un enfant? C'est pas tous les pays étrangers, c'est les pays qui sont les plus pauvres, qui sont dans le plus grande difficulté aussi administrative, de gestion, etc. Donc de voir aussi que les pays, à un moment donné, dès qu'ils commencent à être un peu solides politiquement, ils vont fermer les portes de l'adoption internationale, soit définitivement, comme c'est le cas de la Colombie, sauf si vous êtes ressortissant colombien à l'étranger, vous pouvez adopter en Colombie, ou soit temporairement comme Haïti, qui voit une forme de prédation des pays occidentaux quand il y a le tremblement de terre en 2010, le séisme, et donc en fait, pour s'assurer qu'il n'y ait pas de trafic d'enfants, Haïti met un moratoire de 2010 à 2013 qui empêche les adoptions internationales. Il y a eu aussi ce cas récemment en Ukraine, où tout de suite, le Haut Commissariat aux réfugiés, les Nations Unies, etc., ont dit ce n'est pas le moment d'adopter en Ukraine, on doit s'assurer que ces enfants qui sont séparés à un moment donné de leur famille, mais sont bel et bien orphelins, donc on ne se précipite pas. Et donc, je veux dire, tous ces enjeux-là, pour moi, c'est important de les mettre aux avant-postes, parce que sinon, on ne peut pas comprendre aussi les problèmes auxquels font face les personnes adoptées. Si on s'en tient à la question de, oh oui, le trauma de l'abandon, etc., on ne va pas comprendre qu'il va y avoir des enjeux aussi, justement, de classe. Qu'est-ce qui se passe pour nous en termes de culpabilité quand on sait qu'on vient de milieux extrêmement défavorisés? Mathieu en parle dans le film. Qu'est-ce qui se passe pour lui qui grandit dans une famille de classe moyenne lyonnaise quand il retrouve sa famille dans la favela au Brésil? Quel type de rapport ils peuvent avoir? Comment est-ce qu'il gère cette inégalité économique? Ça, je pense qu'avant avant le film, c'était pas une question à laquelle les gens se confrontaient quand ils pensaient à l'adoption. Et ça, pour moi, c'est important.
Ce qui vous a intéressé et qui rejoint effectivement votre histoire personnelle, Amandine Gay, c'est la situation socio-économique de ces femmes qui accouchent sans révéler leur identité. La plupart du temps, ce sont des femmes pauvres. C'est ce que révèle l'étude de la démographe Catherine Villeneuve-Gocalp de 2011. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les conditions socio-économiques qui doivent être réunies pour qu'une mère de naissance se sépare de son enfant, Amandine Gay?
Oui, cette étude, elle est très intéressante parce qu'elle est très rare déjà, et que je pense qu'encore une fois, si on veut se mobiliser en tant que féministe, afroféministe, etc., sur ces enjeux, on doit se poser la question justement de qui sont ces femmes, de qu'est-ce qui les amène à se séparer de leurs enfants, et est-ce qu'elles ont été accompagnées correctement au moment de la séparation, mais surtout sur le long terme. Et donc moi, ce que je trouvais intéressant dans l'étude, c'est de voir que ce sont des personnes qui n'ont pas d'indépendance financière, qui n'ont pas d'indépendance de logement. Elles ont très peu de caractéristiques communes. Les âges varient beaucoup, les origines peuvent varier beaucoup. Par contre, en termes d'origine sociale, il n'y a pas de variation. Elles sont quasiment toutes pauvres.
Et peu de variations d'origine territoriale aussi. C'est beaucoup les Bouches-du-Rhône et la Seine-Saint-Denis qui sont parmi les départements les plus pauvres de France.
Exactement. Et donc ça, pour moi, c'est intéressant parce qu'on doit effectivement se dire, alors si c'est l'enjeu justement de classe, l'enjeu économique qui fait que les femmes se séparent de leurs enfants, est-ce qu'on peut voir comment est-ce qu'on pourrait les aider si tel est leur désir? Il y en a certainement qui veulent aussi vraiment se séparer de leurs enfants. Mais en fait, quand on voit que c'est la précarité extrême qui amène à ces séparations, on peut se poser la question de pourquoi est-ce qu'on est dans une société qui choisit, plutôt que de soigner la précarité extrême, de s'assurer qu'il y ait des enfants qui soient disponibles pour l'adoption. Puisqu'en fait, quand les gens accouchent sous le secret, vous êtes disponible pour l'adoption en tant que nourrisson tout de suite, entre 3 et 5 mois.
Et pourquoi ces femmes sont si invisibles selon vous, Amandine Gay? Pourquoi on ne veut pas les voir? Pourquoi il y a si peu de travaux de chercheurs qui s'y intéressent?
Parce que je pense que la France reste un pays éminemment patriarcal et qu'il reste beaucoup de jugements quant au fait de se séparer d'un enfant. Et à partir du moment où, encore une fois, les milieux féministes ne se sont pas emparés du sujet pour le dédramatiser, le rendre moins tabou, comme ça a été le cas par exemple pour l'avortement, il y a eu une vraie mobilisation pour que l'avortement soit reconnu comme une pratique légitime à laquelle pouvaient avoir accès les femmes. La séparation avec ses enfants de naissance, c'est pas un travail qui a été fait, il n'y a pas eu de mobilisation féministe pour dire c'est tout à fait légitime, ces femmes ont droit de s'exprimer publiquement, on devrait les aider, qu'est-ce qui a été fait pour les accompagner sur le long terme, etc. Ce n'est pas un débat. Et donc à partir du moment où c'est pas un débat, moi je peux pas m'empêcher d'y voir une forme de jugement. Si on était vraiment solidaire de ces femmes, on se serait organisé pour s'assurer qu'elles puissent, elles aussi, s'exprimer et demander ce qui aurait été le mieux pour elles à l'époque et aujourd'hui.
Un dernier mot, peut-être Amandine Gay, sur l'importance de l'économie, de l'argent dans la création et plus largement sur l'importance d'étudier les rapports de classe, les rapports de genre pour comprendre la société dans laquelle on évolue.
Oui, moi c'est juste que je trouve ça particulier de traverser la vie en la subissant intégralement. C'est-à-dire que en fait, je comprends bien, il y a des personnes qui n'aiment pas l'idée de déterminisme sociaux, etc. Mais c'est un peu une forme de pensée magique. En fait, pour pouvoir, surtout quand on vient des milieux de classe populaire, ou qu'on est une femme, ou qu'on appartient à une minorité de genre, une personne handicapée, une personne noire, etc. Il faut qu'on comprenne ce qui nous arrive. Et pour moi, l'économie, l'industrie, le cinéma comme industrie, c'est l'édition comme industrie et également, c'est simplement un moyen de m'assurer, au travers d'une compréhension politique de ce qui se passe, que je ne me fais pas spolier de mes droits, que je vais être payé à ma juste valeur, que je ne vais pas être limité dans mes ambitions créatives parce que je suis une femme, parce que je suis noire, etc. Et pour ça, il faut comprendre ce qui se passe. Et donc, en fait, il faut lire, il faut aller dans des collectifs, il faut se renseigner, parce que sinon, en fait, vous allez, à un moment donné, vous prendre la porte.
Et il faut regarder vos documentaires, ouvrir la voie et une histoire à soi qui sont disponibles, je crois, sur les sites d'Universciné et d'Arte Boutique. Je renvoie aussi les auditeurs à votre essai, Une poupée en chocolat, Amandine Gay, qui est paru en septembre à La Découverte. Un grand, grand merci de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission, d'avoir partagé avec nous votre vision de l'économie. Un grand merci également à toute l'équipe d'Entendez-vous l'écho, Aliette Ovin, Thibault Mouija, Guillaume Ménard, Diane Devancet et Anna Kubiak. Notre réalisatrice, c'est Somaya Dabesh, et à la technique aujourd'hui, c'est Ludovic Auger. Et...
Comment les marques colonisent-elles l'espace public ? Il ne vous aura pas échappé que la Ligue 1 Conforama a cédé la place en 2020 à la Ligue 1 Uber Eats. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que ce changement de nom du championnat correspond à un doublement du montant du contrat entre la Ligue de football professionnel et son sponsor titre. Mais l'attribution d'un nom de marque aux compétitions sportives n'est pas l'apanage du foot. Il concerne aussi des championnats de handball, de basket, de rugby, certaines compétitions de cyclisme, de voile ou de tennis, ou encore le marathon de Paris. Le naming, ou nommage en français, constitue une opération de parrainage qui consiste à attribuer le nom d'une marque commerciale à une infrastructure, une compétition ou une équipe, moyennant une rémunération. Cette pratique venue des États-Unis s'est répandue à l'échelle internationale. Déjà en 1926, un stade de baseball situé à Chicago avait été renommé du nom d'un industriel du chewing-gum. Dans les années 70, d'autres contrats similaires ont été signés et le phénomène s'est fortement accéléré dans les années 90. En France, c'est surtout à l'occasion des préparatifs de l'Euro 2016 que de nombreux stades neufs ou rénovés ont commencé à troquer leur nom historique pour ceux des sponsors. Le premier a été celui du Mans, baptisé MM Arena, suivi du Matmut Stadium à Lyon, l'Allianz Riviera à Nice ou encore l'Orange Vélodrome de Marseille. D'autres équipements sont également concernés, à l'instar de la Kinder Arena de Rouen ou encore l'Accor Hôtel Arena de Paris. Pour les entreprises, l'intérêt est de renforcer leur visibilité et leur image de marque en l'associant à des événements prisés du grand public. Sur le marché européen, les secteurs de la banque et assurance, des télécommunications et de l'énergie sont particulièrement actifs dans ce domaine. Et les résultats semblent être au rendez-vous pour les marques sponsors, avec des retombées médias pour une valeur monétaire estimée à 500 000 euros en 10 jours pour le contrat du Stade de Lyon, ou 7,3 millions sur une saison pour celui de Nice, selon une note du ministère des Sports. Pour les gestionnaires des événements et des infrastructures, cette pratique représente une nouvelle source de financement. Les contrats sur les stades, par exemple, sont conclus en moyenne sur une durée de 11 ans, pour près de 4 millions d'euros annuels. Ce phénomène de marchandisation de l'espace public, abondamment décrit par Naomi Klein dans son livre-thèse « Nos logos » en 2000, a tardé à se répandre en France. Mais la pénurie des financements publics encourage des collectivités et les associations sportives à rechercher ce type de partenariat. Et il semble pouvoir se décliner à l'infini. Dans le sport équestre, le naming des chevaux est aussi devenu fréquent. Si ces accords font parfois grincer les dents les supporters ou les journalistes qui couvrent ces événements, ils finissent le plus souvent par entrer dans les mœurs. Cette mainmise des marques sur l'espace public dépasse le monde du sport et se diffuse par exemple dans la culture. Le Printemps de Bourges a ouvert la voie en accolant le Crédit Mutuel à son nom depuis 2011. En 2013, c'est l'accord passé entre le gouvernement régional de Madrid et un groupe britannique de télécommunications qui avait défrayé la chronique. Une ligne entière de métro était devenue Linea dos Vodafone et l'arrêt desservant la très emblématique place de la Puerta del Sol, renommée Sol Vodafone, pour 3 ans en échange de 3 millions d'euros. Le naming pourrait-il à terme bouleverser toute la toponymie et le patrimoine historique et culturel véhiculé par les noms de lieux ? En 2005, une commune entière, Clark, au Texas, a aussi été rebaptisée du nom d'une entreprise de télévision par satellite en contrepartie d'un accès gratuit à ses services pendant 10 ans. Faut-il s'attendre à voir les Champs-Élysées ou le musée du Louvre affublés aussi d'un nom de marque ? Pour l'heure, peu de règles existent en la matière. Mais si l'appétit des entreprises semble sans limite pour augmenter leurs ventes, ne revient-il pas à la société de leur fixer un cadre afin de protéger l'espace public et prévenir la surconsommation ?
Merci beaucoup Mathilde Dupré, c'était le pourquoi du comment que vous pouvez retrouver comme cette émission d'ailleurs sur franceculture.fr et sur l'appli Radio France. Demain, le programme de Marine Le Pen est-il vraiment plus social que celui d'Emmanuel Macron ? Nous poserons la question aux économistes Éric Heyer et Anaïs Engel et au politiste Bruno Cotrez. D'ici là, on vous attend sur Twitter pour nous donner votre avis sur cette émission et sur toutes les autres sur le compte d'Entendez-vous les cours.